Et notre invité ce matin, Renaud Muselier, bonjour.
Bonjour.
Président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un président de l'hémicycle régional qu'on retrouve comment ce matin, inquiet de l'avenir politique français ?
Bon, je suis inquiet déjà depuis quelque temps, hein, à partir du moment où il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale avec des forces et des vents contraires et qui sont capables de se rassembler en entraînant vraisemblablement le pire. Donc oui, je suis une forme d'inquiétude. On peut se retrouver dans une situation où il n'y a plus de budget, il n'y a plus de gouvernement.
Et donc vous comprenez
c'est une situation
que...
un peu inédite, c'est particulièrement difficile.
Vous comprenez que 53% des Français souhaitaient cette censure du gouvernement Barnier ?
Je comprends que 47% sont plus raisonnables et que sur le fait que on peut vouloir faire tomber un gouvernement, je crois qu'on ne réalise pas forcément les conséquences d'une telle situation. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qui va se passer et les conséquences qui vont arriver. Donc la colère et le courroux n'est pas forcément le meilleur sentiment pour préparer l'avenir ou en tout cas survivre au quotidien.
Mais est-ce que la colère et le courroux, pour en arriver à ce stade-là aujourd'hui de flou politique, ont été assez pris en compte par Emmanuel Macron ces dernières années ?
Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, il a fait une dissolution qui ne lui a pas rapporté politiquement et on se retrouve dans une situation où au Parlement de la République, vous avez le Rassemblement national qui va voter une motion de censure de l'extrême gauche, en l'occurrence de la fille, qui leur crache dessus dans le cadre de la motion qu'ils font. Et ceci étant aussi soutenu par un parti de gouvernement, le Parti Socialiste, dont un ancien président de la République. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir ni les uns ni avec les autres et qui sont susceptibles de s'entendre pour organiser le chaos. Hein. C'est la politique du pire. Donc c'est un gros grand saut dans l'inconnu. On ne sait pas d'où on saute et où on va.
Oui, gouvernement renversé, ce serait... Vous qui êtes un proche d'Emmanuel Macron, selon vous, ça devrait être quoi, sa méthode ? Est-ce qu'il faudrait renommer Michel Barnier en tant que Premier ministre ou alors partir du côté de la gauche, du côté du RN ? La question, elle se pose aujourd'hui.
Bah, écoutez, on verra ça ce soir. Pour l'instant, je voudrais bien dire à tous ceux qui nous écoutent les conséquences immédiates. Par exemple, un exemple très concret, parce qu'on parle de catastrophisme, etc., mais je vous donne un exemple très concret. Nous qui soutenons globalement tous l'action des agriculteurs. Bon. Les agriculteurs se sont mobilisés en début d'année avec d'énormes difficultés, soutenus par la population française, et vraisemblablement, au-delà des exactions qu'ils ont pu commettre, tout le monde les soutient. Très bien. Le gouvernement de M. Attal a pris en considération la totalité ou presque de leurs revendications, dissolution. Le gouvernement Barnier a repris ce qui avait été fait par M. Attal. Et aujourd'hui, le budget va tomber. Ce qui veut dire qu'ils auront perdu à peu près un an, avec toutes les conséquences immédiates que ça a pour eux. Immédiates, hein.
Le budget...
Donc, je veux dire, c'est, par exemple, pour les agriculteurs, cette histoire est dramatique. Voilà, dramatique.
Alors, le budget va tomber...
Je suis pas sûr que ceux qui sont dans les 53% qui sont eux-mêmes touchés là-dedans aient bien intégré ça.
Le budget va tomber, oui et non, parce qu'il y a... Ça, c'est le scénario du pire, c'est-à-dire le shutdown, l'impasse budgétaire. C'est le moment où on ne vote pas le projet de loi spéciale qui reconduirait le budget 2024 à 2025. Mais il y a quand même cette possibilité de loi spéciale votée. Pour vous, non, on va aller directement au shutdown.
Non, mais le shutdown, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un terme britannique, moi je parle français.
C'est l'impasse budgétaire, c'est-à-dire on n'a pas de budget, un État sans budget.
D'accord, enfin, moi je parle français, et j'ai été 20 ans parlementaire, donc et je suis président d'une grande région qui est une des plus grandes régions françaises, qui heureusement est un pôle de stabilité dans lequel nous votons les budgets. Je crois qu'on ne réalise pas très bien les conséquences immédiates pour nos concitoyens. Là, j'essaie de vous expliquer sur le monde agricole. C'est en cascade sur l'électricité, sur nos hôpitaux, sur nos infirmières, sur les policiers qu'il faut engager, sur le budget militaire qu'il faut faire. Voilà, c'est la totalité du mode de fonctionnement français.
Sur la région aussi.
Vous pouvez faire une loi spéciale pouvait faire une loi spéciale momentanée pour débloquer quelque chose. Mais c'est une rustine, quoi. Donc, ça va être une rustine pour débloquer une situation particulière. Mais le pays est à l'arrêt, quoi. Voilà.
Et quelles conséquences pour la région ? Je pense notamment au CPER, au contrat de plan État-région, si l'État n'est plus autour de la table.
En ce qui concerne la région, nous avons traité notre dossier tel qu'il était prévu dans le budget national. Et donc, nous avons... nous voterons la semaine prochaine le budget régional avec une économie à peu près de 10% sur le fonctionnement, c'est-à-dire près de 112 millions d'euros, en ayant fixé un certain nombre de priorités, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas à nos lycées, on ne touchera pas à nos transports zoos, on ne touchera pas aux agriculteurs. On essaiera de rester logique dans notre aide pro-entreprise, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, tout ce qu'on fait en... Donc c'est une... On éliminera tous les doublons potentiels dans lesquels on venait en soutien d'autres politiques, mais on restera très proche des petites municipalités, notamment... Ils n'ont pas les moyens d'investir dans leur village et que nous finançons ou cofinançons entre 50 à 70%. Voilà, donc c'est des arbitrages qui sont difficiles à faire, mais bon, il faut le faire, donc on le fait.
Ouais. Pour vous, justement, le rôle de la région devient essentiel dans tout ce flou politique ?
Vous savez, quand vous avez un grand flou politique autour de vous, vous avez la guerre à vos frontières, un président américain... qui délaisse l'Europe, les Russes qui se marient avec les Coréens du Nord pour essayer de piquer des territoires démocratiques, des territoires pro-européens, le conflit Israël-Gaza, maintenant la Syrie, et nous en Europe, où tout n'est pas si simple, où la démocratie est systématiquement en danger, nous, ici en France, on n'a plus de gouvernement, on risque de ne plus avoir de gouvernement ni de budget. C'est pas rassurant. Donc, en échange, la région, elle a un président, elle a une majorité, tout ça est très stable. Il y a un débat démocratique et il y a une politique régionale qui est engagée et que je maintiens dans la tempête, je garde le cap.
Vous êtes inquiet pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030 ?
Depuis le début, on n'a que des bonnes nouvelles sur les JO. Vous savez, on est parti en 2024. En 2022, personne n'y croyait. J'avais proposé ça en 2022. En 2024, on les a obtenus lors des Jeux de Paris. Il doit y avoir le DIJOP, c'est-à-dire le comité d'organisation interministériel. Ça s'est fait, qui est mis en place. Le comité d'organisation, qui est le COJO, ça s'est fait, c'est mis en place. Et la Solideo, qui est l'outil, notre système administratif technique qui permet de livrer en temps et en heure les infrastructures qui sera basées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça s'est fait. Donc on a globalement toutes les infrastructures et toutes les ressources humaines en place parce qu'on s'appuie beaucoup sur Paris 2024. Mais à côté de ça, il faut, et c'est le CIO qui nous l'avait demandé, une garantie budgétaire de l'État. C'est dans le budget, s'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de garantie budgétaire. Donc on avance, mais sans garantie budgétaire, c'est forcément un peu inquiétant.
Oui, vous avancez un peu à l'aveugle. D'ailleurs, je voulais vous poser une question, et une question qui sera même un droit de réponse. Vous avez été quelque peu décrié il y a quelques semaines par l'un de vos conseillers régionaux, Roger Didier, qui est maire de Gap également. Il disait sur Alpe 1, certains ne savent pas tenir leurs promesses. Visiblement, vous lui auriez promis des épreuves de curling pour les JO 2030 au sein de l'Alparena.
Nous avons souhaité dès le départ faire plusieurs épreuves, en fait, plus que le curling, des épreuves de glace à Briançon, à Gap et à Marseille. Dans le cas de la discussion qui a été faite avec le CIO et notamment la Fédération internationale de glace, ils ont souhaité que tous les acteurs de la glace soient situés au même endroit, curling compris, à Nice. Ces discussions qu'on a eues en son temps et en heure, je les ai eues à peu près avec les autres stations de ski aussi, puisque au départ, on était seul candidat, mais nous sommes mariés avec les Alpes du Nord, enfin les Alpes d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour arriver à gagner les Jeux Olympiques. Et il y a des arbitrages qui ont été faits. Mon ami, d'ailleurs, se plaint. J'ai eu un engagement de la Fédération internationale de faire des matchs de hockey sur Briançon, sur le Gap, et d'organiser des matchs de hockey, sauf que la dimension des patinoires sont largement insuffisantes. Mais on aura des matchs internationaux qui auront lieu, mais pas pendant les CIO. Pendant les Jeux. Mais parallèlement à ça, Roger Didier, le maire, bénéficiera, et ça, il ne s'en plaint pas, je crois en tout cas, de la rocade de contournement, de l'accessibilité sur les toiles de veine, sur la remise à niveau du domaine ferroviaire, ce qu'il a oublié peut-être de rappeler.
Alors, dans tout ce marasme politique, il y a quand même aussi des nouvelles que vous saluez, celles des États membres de la Convention de Berne qui se sont prononcés ce mardi. Ils ont voté à la majorité pour le déclassement du loup, qui passera d'espèce strictement protégée à protéger, une nouvelle qui a été saluée par la FRSEA et son président Laurent Despiez, mais qui disait sur Alpe 1, attention, ça n'est qu'une étape, puisqu'il faudra ensuite qu'il y ait la directive Habitat qui change. Et puis ensuite, il se posait la question, quid des quotas de prélèvement en France? Est-ce que ça va vraiment changer la donne, Renaud Muselier?
C'est dès le départ, quand j'étais député européen, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, je m'étais battu dans les différentes commissions pour justement sortir le loup de la commission de Berne. Pourquoi? Parce que le loup était considéré comme un animal en voie de disparition et donc d'extinction. Et maintenant, j'ai répété ça, notamment nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons pratiquement la moitié de toutes les dégradations faites par les loups dans notre belle région, des dégâts français. Et donc maintenant, cet animal, le loup, n'est plus une race en voie d'extinction, mais en voie de prolifération. Donc, il était absolument indispensable pour modifier le nombre de quotas de tir, pour éradiquer tout ou partie de cette prolifération, sortir la race de la Convention de Berne. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour nous tous, et surtout pour nos agriculteurs et nos agneaux.
Mais en tout cas, ça va changer les choses, c'est ce que vous dites là. Ça va changer les choses au niveau de l'abattage, il sera facilité.
Disons que le non seulement il sera facilité, mais il sera légal. Et donc, il y a une modification de la loi qui va être faite dans la mesure où cette espèce protégée ne l'est plus. Donc ça change fondamentalement le traitement du problème. Avant, vous aviez les loups qui devaient grandir, se démultiplier. Et quand il y avait un troupeau qui était ravagé, eh bien, on payait aux paysans ou à l'éleveur sa perte, avec tout ce que ça génère comme moyen financier complémentaire et surtout comme désastre humain ou comme perturbation pour les animaux qui ont été dévorés ou leurs congénères qui ne l'ont pas été. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on va y voir plus clair et on va pouvoir enfin défendre nos troupeaux.
Vous répondez quoi aux associations environnementales qui forcément sont contre cette décision et qui reprochent une décision basée sur la science, une décision qui n'est pas basée sur la science, mais une décision politicienne face au lobby?
Oui, enfin, c'est globalement ceux qui sont contre tout. Je pense qu'il faut qu'ils voient un peu ce qui se passe quand un troupeau est dévoré, la difficulté sur le plan financier de démultiplier ces gros chiens là, qu'on croit gentils, qui s'appellent des patous, qui protègent nos troupeaux et qui rendent nos alpages très difficiles à visiter parce que quand vous approchez un troupeau, le patou, il vous mord. Et puis quand vous regardez un peu la nature, si vous l'aimez dans vos montagnes, vous n'avez plus de biquettes, vous n'avez plus de chevrettes, vous n'avez plus de marmottes, tout ça c'est croqué par le loup. Hein. Donc la désertification de nos montagnes sur les espèces qui les peuplent et qui font sorte de nos joies, nous quand on regarde nos Alpes, quand on les aime et quand on se balade et on se remet là, tout est croqué par le loup, il n'y a plus rien. Et donc c'est très bien qu'il y ait moins de loups et qu'il y ait plus de marmottes.
Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1, je rappelle, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous.